Salut, bienvenue ce matin à notre émission spéciale Genève, Église évangélique de Mérin, ou plus simplement GEM. GEM pour l'anglais qui nous parle de la pierre précieuse que tu es et qui s'améliore semaine après semaine au contact de la vie réelle. GEM en français, pour aimer, s'aimer soi-même et aimer l'autre tel qu'il est dans toute sa différence et ses ressemblances. Alors ce matin, GEM est ici à Mérin pour t'accueillir, où que tu sois sur ton chemin, en joie, sur un petit nuage rose dans un ciel bleu, ou en colère face à l'injustice, ou même contre Dieu, en paix dans ta relation à lui, ou en plein chambardement et repositionnement intérieur. Quel que soit l'état de ton corps, de ton cœur, le Dieu que nous rencontrons ce matin t'accueille à bras ouverts. Sois bienvenu. Et pour commencer, nous accueillons sur notre plateau ce matin Michel Cocher de RTS Religion Média Pro. Bienvenue Michel.
En 1987, j'arrive au Cameroun avec des étudiants en théologie dans un aéroport tout au nord, dans la brousse. Et au moment où on sort de l'avion, 747, rutilant, on ouvre la porte et qu'est-ce qu'on voit ? Rien. Enfin, pas rien, mais de la poussière. De la poussière sur le sol, de la poussière sur les maisons, de la poussière sur les arbres, ocre, jaune ocre, coucher du soleil. Et puis de la poussière dans l'air. Aussi, c'est l'harmattan qui souffle, hein, puis qui soulève la poussière. Et là, j'ai l'impression, c'est peut-être là que ma passion pour l'Afrique a commencé. Je les utilise comme des objets décoratifs, mais en fait, ils ne sont pas des objets décoratifs. En fait, ce sont des objets de procession, de communication, d'être ensemble, dont je n'ai pas les clés, moi, comme blanc. Donc, c'est des objets quand même un peu, pas dangereux, évidemment, mais complexes. Quand je fais de l'information, oh, j'ai mon masque d'informateur. Quand je fais du commentaire, ben voilà, c'est le même masque, mais avec une autre expression. Mais le journaliste, il a son masque, mais il doit surtout, et c'est peut-être le plus important, tenter d'aller découvrir qui est derrière la personne qu'il rencontre, qu'il interviewe, qu'il essaye de comprendre. Au fond, il doit se dire, mais face à moi, qui est derrière ? Quel humain ? Quelle valeur ? Quelle vérité.
Bienvenue Michel. Ouais, ça peut être bien, comme ça on te voit. Puis maintenant tu vas nous présenter ton travail.
Volontiers. J'allais d'abord vous saluer. Bonjour.
Je crois que c'est la première fois qu'on diffuse ces clips, enfin ce clip en public. J'ai donné le lien parce que j'avais rien d'autre à disposition qui parlait de moi. Mais on avait décidé de ne pas les diffuser ces clips parce qu'on les trouvait un peu, peut-être un peu compliqués, peut-être un peu trop impliquants. Mais finalement, en me regardant comme ça, je trouve que ça correspond bien à ce que je suis, à mon histoire à la fois de blanc, qui a épousé une Africaine, et de journalistes qui aiment voyager, qui aiment rencontrer. Et puis on mélange tout ça dans un job qui est mon job à RTS Religion. Alors si j'ai bien compris, j'ai un petit moment pour vous dire deux mots sur ce que je fais. Je suis très heureux de pouvoir en parler. Je devrais dire d'abord, je suis très heureux d'être là ce matin. Et ce n'est pas une formule, ceux qui me connaissent le savent, parce que j'ai une histoire longue avec l'église évangélique de Mérin, du temps où ce bâtiment n'existait pas. Et quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu le bâtiment sur Internet, je me suis dit, ouh là là, c'est costaud, hein. Moi je ne connaissais que la chapelle, qui est la chapelle protestante. Et en arrivant ici, en voyant le bâtiment, je me suis dit, quelle magnifique évolution, quelle bénédiction pour vous de pouvoir vous insérer ici de façon si solide, et de pouvoir rayonner. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin, de partager ce petit moment de présentation de ce que je fais avec d'autres, dont une journaliste évangélique. C'est aussi une des raisons pour laquelle votre pasteur m'a invité, j'imagine. Alors, si les petits boutons veulent bien marcher, on va essayer. Voilà. Ça va venir. La patience, c'est bon à prendre. Alors, je vais vous montrer quelques petits clichés, les enfants, qui vous expliquent ce que je fais à la RTS. Voilà. voyez, RTS, on le voit tout à gauche, rtsreligion.ch. Alors, il faut que j'arrive à faire fonctionner ça. Voilà, alors j'ai intitulé ma petite présentation « Des équilibres fragiles et dynamiques ». Le mot fragile et le mot dynamique sont évidemment très importants. C'est fragile parce que notre position à nous, de chrétiens dans la société, en particulier dans la société médiatique, elle n'est pas gagnée. Elle est présente de très longue date, mais elle est fragile. C'est fragile, mais c'est dynamique. Et d'ailleurs, l'un est lié à l'autre. Hein. Quand c'est fragile, la fragilité est en quelque sorte compensée par le dynamisme, par ce que nous faisons, par le fait que nous croyons à ce que nous faisons ensemble. Alors, je vous passe rapidement sur la liste de tout ce que nous faisons. C'est un peu comme au centre commercial, la liste de commissions. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir à la sortie. J'ai des petits signets qui vous font la liste, mais grosso modo, on est présent en radio, sur la RTS, on est présent en télévision. Et puis on est présent aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Voilà, Internet, je voulais juste vous montrer le nombre de personnes que ça représente, que vous ayez une idée, hein, parce que vous dites « cocher, c'est très bien », mais c'est quoi? C'est 100 personnes ou bien c'est 3 personnes? Alors, c'est ni 100 personnes, mais c'est un petit peu plus que 3. J'ai mis ici le nombre de personnes qui travaillent, catholiques et protestants ensemble, parce que ma réalité à moi, de journaliste protestant, de théologien, j'ai une formation de pasteur aussi, c'est de travailler dans le service public avec nos frères et sœurs catholiques. Donc nous sommes en télévision une petite équipe de 6 et en radio une petite équipe de 8, dont une personne financée par la FRAE à 40%. Ça a d'abord été pendant de nombreuses années mon collègue et ami Serge Carrel. On a fait la théologie ensemble. Et il s'est formé en journaliste et puis après, quand il a fini son job pour nous, c'est Gabriel de Sarzan qui a été choisi par la FRAE. Enfin, le partenariat que nous avons avec la FRAE, c'est que la FRAE a la possibilité de nous proposer un journaliste que nous intégrons dans l'équipe et qui travaille avec nous, en l'occurrence Gabriel de Sarzan. Et elle travaille tellement bien que je l'ai engagée moi-même comme journaliste à 30%. Voilà, donc elle est à 70% et c'est vraiment pour moi, une chance, un vrai soutien d'avoir quelqu'un qui vient des milieux de la FRAE pour bosser avec nous et pour représenter cette sensibilité au sein de RTS Religion. Alors là, je reviens en arrière, on ne va pas vous refaire ça deux fois. Voilà, je vais vous montrer rapidement les différentes formes d'équilibre qui sont les nôtres. Je les reprendrai rapidement. Voyez les enfants, c'est différentes formes d'équilibre. Hein. Il y en a un qui est le funambule sur la corde. Il y en a un qui saute grâce à une perche, c'est le saut à la perche. Et puis, on en a encore, vous allez voir, encore un. Est-ce qu'il veut bien venir? Voilà. Ça, c'est un autre équilibre encore. Et puis, un dernier, c'est la poutre. Sauter sur la poutre et faire des beaux exercices. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la gymnastique ici. Des engins ou des agrès. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, alors, l'équilibre du funambule. Je ne suis pas ici pour vous raconter des histoires, mais je suis ici pour vous parler de la réalité telle qu'elle est pour nous dans le service public. J'aime bien cette image du funambule parce qu'elle a deux éléments. D'abord, il faut ne pas tomber, donc s'équilibrer des deux côtés, mais en même temps, on marche, on avance, hein, fragile et dynamique. Le journaliste, il est là pour, si possible, ne pas pencher. Ne pas pencher entre quoi et quoi? Vous imaginez bien, quand on est chrétien, qu'on travaille dans le service public, dans une société déchristianisée, qu'est-ce qu'on se dit? L'important, c'est de défendre, de présenter, de valoriser notre identité de chrétien. Eh oui, c'est vrai, c'est ce qu'on fait, notamment par le culte, par les offices religieux, catholiques et protestants. Mais notre présence dans le service public, ce n'est pas seulement défendre notre identité ou présenter notre identité, c'est aussi être là pour être ouvert à la société, ce que nous faisons depuis de nombreuses années en couvrant non seulement le protestantisme dans ses différentes variantes, catholicisme, évidemment, mais aussi la présence des autres religions, dont la plus récente et la plus complexe, qui est l'islam. Voilà, des angles pour avancer. Ça, c'est un concept un petit peu plus difficile. On voit bien le funambule, il doit trouver un équilibre catholique, protestant, identité, ouverture. Qu'est-ce que c'est que les angles? Quand vous traitez un sujet, mettons l'islam, vous pouvez l'aborder de différentes façons. Vous pouvez l'aborder de façon très frontale, comme ça vous plantez votre piquet au beau milieu, mais vous pouvez aussi avoir un angle qui est moins aigu, et puis vous l'abordez de façon plus, vous voyez sur la perche, de façon plus plate. Il nous faut trouver des angles. Et on a différents angles. Donc une des règles, si vous voulez comprendre le métier que je fais, c'est de ne jamais réduire ce que nous faisons à une émission. Une émission, elle prend un angle sur l'islam. Par exemple, je prends l'exemple du pape François parce que c'est récent, son discours, ces textes qu'il a signés, qui sont magnifiques, de magnifiques textes, mais tout le monde sait que ça n'a aucune espèce d'écho réel sur le terrain, ça n'est contraignant pour personne. Mais enfin, c'est nécessaire d'en parler. Voilà, ça c'est un angle, si vous voulez, relativement ouvert et bienveillant. Et puis vous avez un autre angle qu'on a fait la semaine passée, où on parle des djihadistes qui, au Burkina Faso, mais dans d'autres pays aussi, assassinent des musulmans, il faut le rappeler d'abord, mais aussi de nombreux pasteurs, notamment de nombreux pasteurs pentecôtistes. Donc, on choisit des angles différents pour pouvoir avancer, pour pouvoir permettre aux auditeurs de mieux comprendre, de sauter l'obstacle. L'interaction avec l'auditoire. J'aime bien cette image parce qu'il y manque une partie. Et quand vous êtes à la radio ou à la télévision, c'est comme si vous êtes là sur le... Vous vous balancez, mais en fait, vous ne voyez pas votre auditoire. Vous ne voyez pas les gens qui vous écoutent ou les gens qui vous regardent. C'est comme si vous vous lancez et vous espérez que derrière, il y a quelqu'un qui va vous tenir la main, qui va être avec vous. C'est les interactions avec l'auditoire. Alors, vous savez, les interactions avec l'auditoire, ça a beaucoup évolué. Pendant longtemps, c'était les audiences. Mais aujourd'hui, nos audiences générales, dans ce qu'on appelle la radio et la télévision linéaire, elles sont un peu en érosion, parce qu'elles sont, pour une large part, compensées ou remplacées par une écoute sur les réseaux sociaux ou sur le numérique. Ça veut dire que la génération des enfants qui est là, puis des jeunes, ils regardent de moins en moins la télévision, voire presque plus du tout. C'est peut-être pas très grave, en tout cas c'est un changement. Mais par contre, ils regardent ou ils regarderont, pas les petits, c'est pas le moment d'avoir une tablette encore, mais ça viendra, heureusement ou malheureusement, c'est le papa qui parle. C'est diffusé sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Eh bien, je vous montre cet exemple-là. Les interactions avec l'auditoire, elles n'ont pas lieu qu'une seule fois pendant qu'on diffuse l'émission. Mais l'émission étant présente longtemps, elle est vue et revue des tas de fois. Je donne l'exemple de cette émission. Évidemment, le sujet est intéressant de Lita Basset. C'est Mort qui nous parle, où elle évoque ce qu'elle ressent de lien avec son fils qui s'est suicidé. Je crois que leur première audience, elle va être de 30 ou 40 000 personnes. Et puis avec le temps, on en est maintenant à 250 000 vues sur YouTube. Donc vous voyez, les interactions, elles deviennent plus complexes et plus variées. Et puis on a aussi, ça c'est notre chronique du matin, des interactions d'une autre nature. Quand j'ai commencé ce job, je faisais la minute écuménique. Je ne sais pas si ceux qui sont là d'un certain âge s'en souviennent. Ça a été un grand moment, mais on était là, on lisait notre billet religieusement. Maintenant, on est, comme mon collègue ici, Guillaume Manchon, on est face à une caméra. Le matin, c'est de la radio, hein, mais on est face à une caméra. Et puis, ce qu'on dit à la radio, c'est en même temps filmé. Donc, il faut essayer de trouver un bon produit radio, mais en même temps, il faut quand on regarde, ce ne soit pas trop ennuyeux. Alors voilà, Guillaume, il s'est mis pour une chronique sur le pastafarisme, c'était un peu un gag, il s'est mis une casserole sur la tête. Voilà, on essaie de trouver d'autres interactions, je ne garantis pas le succès de cette formule-là. Et on arrive au nouveau format. Ce qui est intéressant dans cet équilibre-là, sur la poutre, c'est que pour arriver à monter sur la poutre et faire un exercice, il faut avoir de l'élan. On ne saute pas comme ça à partir de rien, on a de l'élan. Et au fond, tout l'enjeu pour nous, journalistes de RTS Religion, c'est d'être nourris par un élan, qui est l'élan que nous percevons dans nos contacts avec les fidèles, dans nos lectures, dans nos interviews, et que cet élan qui nous porte, cet élan c'est vous d'une certaine manière, nous mobilise pour essayer, on pourrait dire, ou de nous adapter aux nouveaux médias, ou ce qu'on appelle plus techniquement de trouver des nouveaux formats. Qu'est-ce que c'est des nouveaux formats ? Alors, les plus jeunes, ils savent vraiment ce que c'est, les plus âgés peut-être aussi, je vous en montre deux des nouveaux formats. Je vous disais tout à l'heure, on a choisi de faire une chronique sur, et une interview sur la situation des chrétiens en Burkina Faso et des pasteurs qui, et pas seulement, qui y sont malheureusement parfois assassinés. Jusqu'à présent, cette petite chronique, elle était seulement à la radio. Maintenant, je vous sors mon téléphone portable, que vous voyez la complexité du monde dans lequel on est. Maintenant, les nouvelles, le bulletin de nouvelles, vous l'écoutez pas seulement à la radio, voire même vous l'écoutez plus parce que c'est seulement quand vous êtes en voiture, mais vous prenez votre application et sur cette application, sur votre téléphone portable, vous avez une petite application qui s'appelle RTS Info. Et de plus en plus, les gens s'informent à la RTS, non pas tant en écoutant le bulletin de nouvelles à la radio, mais en prenant l'application et en lisant un résumé de toutes les nouvelles qui viennent. Vous pouvez y revenir, vous pouvez aller chercher des plus-values, etc. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'au fond, nos informations à nous, en l'occurrence comme celle-ci, les djihadistes qui font des excès, intéressent l'information. Alors ça ne passe pas au bulletin de nouvelles, parce qu'au bulletin de nouvelles, il faut parler de Federer, il faut parler des votations fédérales aujourd'hui, évidemment, mais disons, parler des pasteurs qui se font descendre au Burkina, ce n'est pas dans la une. Alors, on n'est pas dans la une, mais grâce à ces nouveaux médias, on peut être dans la 5, 6 ou 7e place. Mais la 5, 6 ou 7e place, c'est bon à prendre quand les gens, petit à petit, passent sur ces médias-là. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle pour nous un nouveau format, c'est aussi un autre job. On ne fait pas que de la radio, on doit écrire quelque chose qui va rester ici. Et puis, je vous ai mis ici un autre travail que nous avons élaboré depuis plusieurs années. Ceux qui s'intéresseront tout à l'heure, j'en dirai volontiers un mot. C'est un GPS qui permet de s'orienter sur des questions d'éthique ou de spiritualité. Alors, je suis en train de travailler sur une version qui sortira la semaine prochaine sur le mariage pour tous. Quels sont les arguments pour, les arguments contre et surtout les valeurs pour lesquelles on va voter, quand on votera, sur cette question-là ? Les réformés vont se prononcer à la Fédération des Églises protestantes de la Suisse. Ça génère beaucoup de débats. Donc voilà, on essaye de trouver un format qui est une application qui permet de se situer sur un certain nombre de thèmes d'éthique et de société. Voilà, je crois qu'on avait dit 10 minutes. Je regarde Eric, mais je crois que je dois y être. C'est un peu rapide. Tout ça pour vous dire que, un, en résumé, notre place à nous chrétiens dans le service public n'est pas menacée. Elle a été chahutée, mais grâce au soutien peut-être de vous, j'imagine, et de tant d'autres, elle est restée. Notre défi à nous, c'est de faire bien avec peu de moyens. Je vous donnerai juste une dernière information. Une émission de temps présent, je ne parle pas d'un match de Federer ici à Palexpo, c'est le budget de toutes nos émissions sur toute l'année. Donc vous voyez, on n'est pas dans la même cour. Mais ce n'est pas grave. L'important pour nous, c'est de pouvoir rester, d'être crédible pour nos partenaires de la RTS, et c'est le cas. Je peux dire qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé, c'était le pasteur qui était là et le prêtre. Après, on nous a dit, ben, écoutez, c'est le moment de disparaître. Puis on a dit, non, on ne va pas disparaître, on va travailler autrement. Et puis aujourd'hui, on est amplement reconnu comme journaliste, même si ce dont on parle, bon, des fois c'est beau, c'est lumineux, c'est l'Évangile, c'est l'Esprit-Saint, puis d'autres fois, franchement, c'est moins drôle, la religion n'étant pas porteuse que de belles choses. Donc voilà, c'est de nouveau ce dont je vous parlais au début, le funambule, cet équilibre entre les zones de lumière et les zones d'ombre. Voilà, merci de votre attention.
Bonjour. Dans un monde où notre foi est parfois remise en question, il est bien de savoir qui on veut louer ce matin ensemble. On veut déclarer qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, cet agneau qui est venu dans la faiblesse, mais qui a pris notre souffrance. qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui. C'est pour cela que nous voulons nous réunir pour le glorifier, pour lui chanter notre louange, pour l'écouter. Je vous invite à vous lever pour chanter à l'agneau sur son trône. Apportons la couronne. Il est le roi des rois et nous voulons le proclamer ce matin.
Sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme. Bénis, adore, acclame. Avec tous les anges du ciel, Jésus. Pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. L'agneau, tous les trônes et toutes les couronnes.
Il est le maître souverain, mettons son temps, sa main.
Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir.
Son nom est exalté.
marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, sur le rocher de ton salut.
Amen. Nous voulons aussi nous rappeler de cet amour qui nous rejoint. On n'a pas mérité l'amour de Dieu, il nous l'a donné comme un cadeau. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes religieux ou que nous sommes nés dans un certain pays ou avec une certaine culture chrétienne, mais nous sommes là parce qu'il nous a montré son amour, il nous a pardonné, nos péchés sont pardonnés grâce à ce qu'il a fait pour nous. Et donc on peut parler de ces torrents d'amour et qu'on croit à son sacrifice, et c'est pour cela qu'on puisse connaître cette relation avec lui aujourd'hui. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix.
De Dieu, et couvert.
peut chanter sa gloire, on peut chanter qui il est, ce qu'il a fait pour nous, mais on peut aussi le dire et le proclamer ensemble. Et c'est ce que nous allons faire maintenant par les paroles de Philippiens 2. On va lire ensemble le texte qui est sur l'écran. C'est que 3 versets, donc je pense qu'on peut suivre, on peut le faire ensemble. Jésus s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Rédempteur adorable.
Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment. Je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternel. Souffrance, j'ai porté ta langueur, contemplant l'assurance, ton grand libérateur, ton amour me réclame, me voici cher sauveur, prends mon
Et pour les enfants, et puis ensuite, on va passer à la suite. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, une nouvelle génération est devant nous. Nous aimerions te prier que tu les bénisses, que tu inspires les mots qui vont leur être partagés ce matin, que tu les accompagnes à apprendre plus de toi pour que ta vie commence dans leur vie à eux. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Jean 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmiers et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Le roi d'Israël, Jésus, trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse ». Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. »
Quelques versets de 1 Corinthiens 3, versets 4 à 7. Lorsque vous dites « Pour moi c'est Paul » ou « Pour moi c'est Apollos », n'êtes-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître.
Dans Ésaïe 54, les versets 1 à 5, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. » Jusqu'ici, la parole de l'Éternel.
Tout à l'heure, je vous ai montré dans la présentation de mon travail à RTS Religion cette image du funambule, cette corde, et puis on marche comme ça, en essayant de trouver un équilibre. Entre d'un moment, d'un côté, l'identité, il faut affirmer son identité dans cette société, et puis d'un autre moment, il faut être ouvert, autrement on se replie sur soi-même. Cet équilibre, il y a toutes sortes de manières de le traduire, j'aimerais vous en proposer un ce matin, qui est d'un côté s'adapter à un monde fluide, et d'un autre côté résister, ou en tout cas se fonder sur des valeurs solides. Fluide, solide. Le mot fluide, vous l'avez peut-être déjà entendu quand vous parcourez telle ou telle analyse de la société contemporaine. Fluide, ça vient, c'est un mot qui a été inventé par un sociologue très connu, M. Bormann, qui est décédé. C'était un homme qui était marxiste à ses débuts, c'est important de le savoir, et vers la fin des années 1980, il a forgé ce concept de société fluide. Société fluide, c'est-à-dire consumériste, où tout, y compris l'individu, est objet de consommation. Ça, c'est la société fluide. Vous sentez ce que je veux dire par là, ou c'est encore très abstrait ? Société fluide, je crois qu'on voit à peu près ce que c'est quand on va au centre commercial, qu'on ouvre la radio, la télévision, etc. Et l'Église, est-ce qu'elle est à l'abri de ce courant de société? Ne devient-elle pas ou ne risque-t-elle pas de devenir elle aussi un peu objet de consommation? Comme si on a des liens de consommateurs avec son Église. Je
parle pour moi réformé. Quand on est réformé, bon, on va au culte en fonction du pasteur. On regarde la liste des pasteurs, puis celui-ci il n'est pas bon, on n'y va pas. C'est une attitude de consommateur. Quand on est évangélique, j'essaie d'imaginer, mais je vous connais un peu quand même. On va au culte, bah, s'il y a un bon groupe de louanges qui déménage, on aura peut-être plus envie d'y aller que si c'est un peu mollu, quoi. Voilà, c'est aussi une manière d'entrer dans une forme de société fluide ou d'église fluide. Et quand on est catholique, pensons à nos frères et sœurs catholiques, eh bien on va à la messe, bon, quand il y a un événement spécial, un prélat bien habillé, voire un chœur de passage ou une belle pièce musicale. Ce qui est aussi une attitude de consommateur par rapport à son église catholique. Alors j'aimerais vous dire ce matin, puis essayer de le décliner un tout petit peu, qu'il y a dans toute église, dans nos églises ou dans l'église du Seigneur, ces deux états, liquide et solide. Pourquoi ? Parce que au cœur de l'église, il y a deux choses. L'évangile, première chose, et l'autre, la croix et la résurrection. L'évangile, c'est les deux, c'est du liquide et du solide. Le liquide, c'est quoi ? C'est une parole qui dissout la dureté des cœurs dans l'amour du Seigneur. Et le solide, c'est un service qui solidifie par la confiance l'éphémère, le superficiel de nos relations. Dans l'évangile, il y a ces deux choses. Mais aussi dans la croix et la résurrection. C'est une idée que j'ai eue tout d'un coup en chantant les cantiques qu'on a chanté tout à l'heure, ça m'a fait tilt, entre la croix, qui est du solide, aussi parce qu'historiquement c'est incontestable, et la résurrection, qui est du fluide, parce que c'est une affaire de foi, on ne peut pas le prouver historiquement. C'est difficile à expliquer ce que c'est la résurrection, ce n'est pas pour rien que beaucoup de nos contemporains mélangent réincarnation-résurrection. Vous voyez, la croix, c'est du solide, la résurrection, c'est du fluide, on a besoin de ces deux. Alors, au temps des prophètes, puisqu'on a lu le prophète Ésaïe, on n'avait pas des sociologues qui élaboraient des concepts très puissants, comme ça, très fins sur la société, mais pour autant, on ne manquait pas d'une certaine perspicacité. Alors, prenons Ésaïe, dont on a entendu un bon extrait. Les deux registres sont présents. Je vous cite le verset 3. « À ta droite et à ta gauche, tu vas déborder. » Qu'est-ce qui peut déborder ? C'est du liquide. C'est du liquide qui déborde. Le petit peuple élu va se métamorphoser en grande nation. Et puis un peu plus loin, il y a un autre verset très connu, qui est celui-ci. « Élargis l'espace de ta tente. » Ça, c'est du solide. Il faut des piquets. Il faut faire des gros piquets. Bon, ici, vous avez fait des grosses colonnes pour élargir l'espace de votre communauté en construisant ce magnifique endroit. Il faut construire du solide, dit le prophète Ésaïe. Que l'on passe du liquide au solide ou du solide au liquide, l'enjeu, c'est le mouvement d'ouverture. Ou si vous prenez l'image de l'équilibre, c'est de pouvoir avancer, de ne pas rester statique. Et j'aimerais vous proposer quatre petits repères historiques de ces passages du liquide au solide qui nous constituent, qui constituent notre histoire de chrétien, nos histoires de communauté. Le premier, à tout seigneur, tout honneur, commençons par Jésus. On a lu tout à l'heure le récit de l'entrée à Jérusalem. Jésus marche, vit son ministère en Galilée, et puis au rameau, il entre à Jérusalem. C'est un chemin avec ce premier moment clé à Jérusalem de l'histoire des rameaux qui sera suivi ensuite de la passion et de la résurrection. Et là, il y a un passage du liquide au solide pour ceux qui suivent Jésus. Pour ceux qui ne le suivent pas, c'est le contraire. Il y a un passage du... Faut pas que je me trompe, hein. Du liquide au solide. Alors, prenons d'abord ceux qui suivent Jésus. Ils sont avec lui dans la Palestine, ils voient ses miracles, ses signes, tout ça est très encourageant et très, très excitant, c'est vraiment du liquide, ça fonctionne, ça se diffuse. Et puis l'entrée à Jérusalem, c'est en quelque sorte un moment où ça se solidifie. Pourquoi ? Parce que en entrant à Jérusalem, c'est comme si on posait, pour ceux qui suivent Jésus et qui font la fiesta, en le voyant entrer à Jérusalem, c'est comme si on posait le signe définitif et solide, parce qu'il est rapporté aux Écritures de l'Ancien Testament, qu'il est le Messie. Il y a tout ce qu'il a fait de liquide dans son ministère, des signes, etc. Et puis tout d'un coup, il entre à Jérusalem. Ça, c'est du solide. Qu'est-ce qui se passe pour les pharisiens? C'est un peu le contraire. Pour eux, c'est un peu une forme de déconstruction. C'est un peu leur religion qui fout le camp. C'est-à-dire, ce Jésus, au fond, il pensait qu'il était un bon rabbi, qu'il allait consolider, si vous voulez, ce qu'est le pharisaïsme d'alors. Et au fond, ce n'est pas ce qui se passe. C'est comme si, pour les pharisiens, la terre leur glissait sous les pieds. Ça se liquéfie. Voilà, ça c'est le premier, je reprends mes notes pour pas que je vous dise de sottises en ayant bien réfléchi à tout ça. L'Église est plus large que le pharisaïsme, qui est la religion, pour ce qui est des juifs, qui est la religion dont l'Église tire son réservoir symbolique, son récit de base. Donc si vous voulez, il y a à la fois un élargissement pour les juifs, mais ça va être un élargissement très difficile à accepter, et puis il y a aussi, pour ceux qui suivent Jésus, une forme d'élargissement, puisqu'il entre à Jérusalem. Ce qui était une petite histoire devient symboliquement quelque chose de très important. Donc, premier repère, l'Église est plus large que le judaïsme. Et si on essaie d'actualiser pour nous, l'Église est plus large que la religion d'origine dont nous sommes issus. Alors, nous sommes issus du protestantisme, du catholicisme, de l'orthodoxie, qui sait. Mais au fond, l'Église du Seigneur, elle est plus large que cette origine, tout à fait légitime, dans laquelle nous sommes. Je vous disais, et on entre dans le deuxième repère, après ce premier repère, que j'ai une histoire avec cette église de Mérin. Je regarde Armand et Heidi, parce que ça fait 30 ou 40 ans qu'on se connaît. Quand je suis venu ici, votre bâtiment n'existait pas, mais on venait ici pour les camps missions. On venait, avant de partir, on venait charger du matériel ici dans la chapelle. Et quand je suis arrivé ce matin, en tournant, au fond, tout d'un coup, tous ces souvenirs du camp mission sont venus à moi, mais pas ce bâtiment. Alors, quand je suis arrivé, je me suis dit, oulala, les choses ont changé depuis. Mais ce moment pour moi, ces moments dans ma jeunesse de chrétien, étaient très importants. Pourquoi ? Parce que d'un côté, j'ai des racines réformées, je suis un pasteur de l'église protestante de Genève, mes parents sont engagés dans cette église depuis mes parents, mes grands-parents, etc. C'est du solide. Mais en ayant la chance de pouvoir fréquenter une autre famille chrétienne, grâce au rayonnement d'Armand, d'Heidi et de beaucoup d'autres, j'ai découvert quelque chose de plus fluide. Vous voyez, si vous voyez un réformé pour qui c'est comme ça, son église d'origine, c'est du solide, c'est du bien construit, puis tout d'un coup vous découvrez la parole du Seigneur, l'Évangile, la joie de témoigner ailleurs, vous entrez dans quelque chose de plus fluide. La construction que vous vous étiez faite, elle évolue. Et ça m'a permis de découvrir la richesse du corps du Christ. Alors pour ce deuxième repère, j'ai choisi un petit extrait qu'on a entendu tout à l'heure de l'Épître aux Corinthiens. L'apôtre a passé 18 mois dans cette ville de Corinthe pour annoncer l'Évangile, une ville de construction récente avec une population très bigarrée, où toutes les races, voire les religions, se côtoient. Mais évidemment, plusieurs prédicateurs passent par là, sans doute avec des nuances théologiques différentes, et ça crée des tensions entre les différents courants de l'Église des Corinthiens. C'est en fait, si on veut essayer de l'expliquer un peu sociologiquement, c'est le passage de la culture judéo-palestinienne, dont Jésus est originaire, à celle plus hellénistique de Corinthe. Et les hellénistes, eux, qui sont très cultivés, ils sont ouverts à l'Évangile, mais ne retiennent de l'Évangile que ce qui est en symbiose, en concordance avec leur propre théologie à eux. Alors les identités sont brassées. Comment faire pour s'y retrouver ? Ben, on se réclame de tel pasteur ou de tel pasteur, c'est assez normal. Comme si la racine qui légitime le fondement de l'Église, c'est le lien que l'on a avec tel ou tel pasteur. Bon, c'est pas faux, au demeurant. On peut tous dire la même chose, moi je peux le dire aussi. Que va faire Paul ? Il va plaider que l'Église ne se pense pas seulement à partir de ceux qui nous ont transmis la foi. L'Église, c'est plus que son groupe ou sa congrégation d'origine. Paul élargit de façon considérable l'Église à une vision qui est supra-identitaire. Vous savez, pour des communes, si on essaie historiquement de s'imaginer ce que c'était à cette époque, pour ces communautés naissances qui cherchent à se constituer, à réguler leur culte, c'est une ouverture considérable. C'est aller au-delà du congrégationalisme. Ce congrégationalisme, le mot est difficile à prononcer, mais la réalité est importante, il nous guette un peu tous, en particulier nous, les protestants que nous sommes. Pour le dépasser, il faut vivre ce passage d'un solide, le lien qu'on a avec une personne qui nous a, un pasteur ou un témoin, dont on se dit c'est par son ministère ou son témoignage que j'ai reçu la foi, à du plus fluide. Il y a d'autres chrétiens ailleurs qui témoignent et qui rayonnent, et le corps du Christ est plus vaste que ce lien fort et solide que j'ai et que je garde. Avec, mettons, un apôtre, puisque le mot apôtre, c'est ça qu'il veut dire, c'est un envoyé, c'est celui que Dieu a mis sur mon chemin pour me permettre de rencontrer la foi. Troisième repère, là on va entrer dans une période qui est beaucoup moins connue des protestants, c'est les 2 et 3e siècles de l'histoire de l'Église. Nous, on a un peu l'habitude de sauter de Saint Paul à la Réforme. Comme ça, c'est clair, c'est simple. Il y a Saint Paul, puis après, il y a nous derrière, et puis on est bon, on est sûr, on est dans le coup. C'est un peu un raccourci quand même, franchement. Il y a une période que l'on connaît moins dans notre monde, c'est la période qui se situe entre la fin de la rédaction des récits du Nouveau Testament et puis la conversion de l'empereur Constantin qui va faire basculer l'Empire romain dans le christianisme. Les noms des grandes figures chrétiennes, je vous les nomme quand même parce qu'elles sont importantes, ne serait-ce que vous les ayez à l'oreille, c'est aussi des apôtres, si vous voulez, ceux qu'on appelle les pères apostoliques, Clément de Rome, Ignace d'Antioche, et puis il y a dans cette période d'autres figures importantes, ceux qu'on appelle les pères apologètes. Apologètes, ça veut dire défendre, c'est ceux qui défendaient la foi en discussion avec la philosophie hellénistique, les pères apologètes, Justin, Tertullien, et de grandes figures un peu hors normes qui laissent des écrits considérables dans ces deux siècles qui sont Ignace d'Antioche et beaucoup plus près de nous, une figure très importante. Si vous allez à Lyon, il faut absolument aller creuser un tout petit peu. C'est Irénée de Lyon et enfin Origène. Voilà. Donc c'est un foisonnement de toute une série de grandes figures qui défendent ou pensent la foi chrétienne. Mais c'est une période difficile pour les communautés chrétiennes. Pourquoi ? Parce qu'au départ, elles étaient des petits groupes sectaires qui essayaient d'exister, au moins de se tenir, de trouver une façon de célébrer leur culte correctement. Mais là, le temps a passé, 2e-3e siècle, on n'est plus dans des petits groupes sectaires. On est dans des communautés, comme vous, solides, avec des notables, des gens engagés dans la société. Quelle place est-ce qu'on peut trouver dans cette société ? Parce que l'Église devient petit à petit un corps social. Comment faire comprendre à la société ce qu'on est, Église ? C'est difficile. C'est vraiment l'enjeu pour les chrétiens de cette époque, des 2 et 3e siècles. Alors comment est-ce qu'elles vont faire ? Eh bien, elles vont veiller à leur réputation, ce qui est tout à fait légitime, en mettant en place une morale extrêmement exigeante, en particulier dans le domaine sexuel et conjugal, avec une valorisation de la virginité et de la continence qui annonce le monachisme, le développement des moines qui sera considérable aussi dans cette période. Donc elles vont montrer, elles ne vont pas réussir à expliquer exactement dans le détail ce que c'est la croix et la résurrection et la scène du Seigneur à une société qui n'a peut-être pas la capacité de le comprendre, mais elles vont montrer qu'elles sont des communautés honorables. Elles sont des communautés qui ont un style de vie qui est parlant pour la société, qui peut être décodé. Donc, en fait, elles vont essayer de montrer que ce qui est important, et ça c'est pour elles, dans leur compréhension qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est pas seulement d'avoir une vie personnelle de prière sanctifiée avec Jésus, mais d'avoir une place dans la société, une visibilité qui soit décodable. Et c'est pour elles un enjeu très important. Donc ça veut dire que pour elles, elles doivent faire ce saut entre la foi, ma foi personnelle, que je vis en communauté ou que je célèbre, c'est bien, mais pour qu'on comprenne qui je suis comme chrétien et qui nous sommes comme communauté célébrante, il faut qu'on pose des signes qui montrent que nous sommes des acteurs de la société civile. On pourrait, par analogie, je fais une petite digression, mais ça m'est venu ce matin en venant aussi, se dire qu'au fond, aujourd'hui, dans cette société déchristianisée dans laquelle on est, c'est un peu la même chose qui se pose. Ces églises qui croient en Dieu, en Jésus, tout ça, c'est très bien, mais au fond, ça sert à quoi dans la société ? C'est un peu, même moi qui suis à la RTS, je vous dis franchement, c'est parfois des questions que je me pose. Et je me demande si là, on ne devrait pas aussi se dire, c'est bien la piété, la foi, la prière, tout ça, c'est indispensable sans qu'on n'ait plus église. Mais pour faire comprendre au monde ce qu'est le message de l'Évangile, il nous faut les rencontrer ailleurs, dans les réfugiés, la question des réfugiés, dans la question de l'écologie, ou dans d'autres questions qui sont des questions de société importantes, ou peut-être la société attend des corps sociaux que nous représentons, des formes d'engagement qui disent ce que c'est être chrétien aujourd'hui. On finit vite, parce que je sais que le temps passe, par la dernière période, c'est celle de la réforme. Là, c'est plus facile, parce que on pense, à juste titre, qu'on la connaît bien. C'est celle qu'on vient de fêter. On a fêté les 500 ans de ce basculement de la réforme. Qu'est-ce que la réforme a changé au domaine de l'Église ? Pour le comprendre, bon, il faut aussi résumer un peu rapidement les 1200 ans qui nous séparent de la période précédente, hein, 2e-3e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé entre les communautés qui cherchaient à être acceptées, reconnues, et puis la situation de la réforme, où l'Église est une puissance politique énorme qui a un poids sur la société à nul autre pareil. L'Église couronne les rois et les empereurs, elle fait la pluie et le beau temps de la vie des populations sous son leadership. Comme bien prendre la mesure de ce qui s'est passé, c'est énorme. Une alliance entre l'Église et l'État s'est constituée. Une alliance entre les descendants des aristocrates romains, des empereurs, de tous ceux qui géraient l'Empire romain, et le clergé. Deux castes de systèmes, et chaque système ayant son absolu, reconnu mutuellement. Donc un système de domination génial, et ça a duré des siècles, ça a bien marché. Un système de domination pour ordonner la société, la mettre sous coupe réglée. Une imbrication des pouvoirs, c'est un système très solide. Je le dis à dessein, le mot solide, parce que je vais vous glisser le mot fluide, et là, la réforme, elle apporte quelque chose de fluide au nom de l'Évangile. La réforme, elle ébranle cette répartition entre l'Église et l'État, entre l'Église et les empereurs, cette répartition usée par des siècles de domination. Pour Calvin, puis pour Luther aussi, l'Église, c'est là où l'Évangile est correctement prêché et les sacrements administrés. C'est une définition qui, si on ne peut pas faire une leçon de catéchisme ici, mais qui fait exploser tout ce que le christianisme constantinien a construit pendant des siècles. L'Église, c'est plus là où il y a un évêque reconnu par l'État, l'Église, c'est là où l'Évangile est bien prêché. C'est une révolution, en tout cas, c'est beaucoup de fluidité dans un système qui était extrêmement solide. J'aimerais conclure en vous disant un certain nombre de choses sur la solidité de l'Église aujourd'hui. Peut-être vous avez aussi vu cette émission infrarouge à laquelle j'avais été invité il y a quelque temps suite au scandale qui marquait l'Église catholique avec Monseigneur, j'ai un blanc sur son nom, l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, une émission qui mettait en lumière, infrarouge, qui mettait en lumière les scandales qui éclaboussent l'Église catholique. Non seulement sur la question des prêtres pédophiles, mais aussi sur celle de l'hypocrisie autour des discours sur l'homosexualité et les violences faites aux femmes. Ceux qui critiquent l'homosexualité sont ceux qui la pratiquent dans les petites alcôves du Vatican. Je vous avoue qu'en sortant du plateau, d'abord c'était pas très agréable parce que le christianisme est mis sur la sellette, mais voilà, c'est comme ça, il faut faire face. En sortant du plateau, je me demandais comment les catholiques pouvaient encore faire confiance à leur Église avec une telle solidité ébranlée. Je me demandais s'ils pouvaient toujours dire « je crois en l'Église, une sainte, universelle et apostolique ».
À la vérité, je me disais qu'il devait finir par y croire à la manière un peu protestante qui est la nôtre, c'est-à-dire plus fluide, avec cette distinction qui pour nous est commune entre église visible et église invisible. Il y a l'église visible, c'est les institutions, et puis l'église invisible, c'est l'église corps du Christ, du Seigneur. Cela dit, comme protestant, je n'étais pas plus à l'aise ou je ne me sentais pas plus à l'aise pour faire le malin, comme si les églises protestantes étaient à l'abri de tout scandale. C'était aussi quelques jours ou quelques semaines après que cet énorme scandale des églises baptistes du Sud soit sorti. Je trouve qu'avec cette crise de l'Église catholique, il ne faut pas sous-estimer, même si nous on est protestants, l'importance symbolique, visuelle, médiatique de ce qui se passe dans le catholicisme. L'Église, on y revient, l'Église comme objet de consommation se trouve encore renforcée. Vous avez beaucoup de catholiques qui ne sont pas dupes sur ce qui se passe, qui ne quittent pas leur foi pour autant, mais qui entrent dans une forme de consommation. Je prends ce qui m'arrange et le reste, je laisse tomber. Je dirais que si les catholiques romains sont tentés par ça, les réformés ne sont pas bien meilleurs, puisque ce sont les champions de la désaffiliation. On le sait sociologiquement, les réformés qui formaient une grosse partie des protestants de ce pays, la partie principale, aujourd'hui se désaffilient de leur Église, se distancient simplement et clairement. Alors, est-ce que la famille évangélique offre, elle, un lieu de résistance à cette société fluide? Peut-être, peut-être, je vous encourage, je m'en réjouirais si vous le faites, et je pense qu'effectivement, l'évangélisme offre quelque chose que les autres grandes églises n'offrent pas. Mais vous êtes aussi guettés par quelques risques. Je vous les ai soufflés tout à l'heure dans mes quelques points. L'Église, c'est plus que la vie privée ou la vie de louange qu'on passe ici entre nous. C'est ça, mais c'est plus. C'est un engagement dans la société. La vie, c'est plus qu'un lien fort qu'on a avec un pasteur ou avec une expérience de conversion, avec une histoire. C'est ça, mais ça va au-delà. Il y a chez vous un homme qui, pour moi, fait la passerelle entre église solide et église fluide. C'est l'engagement du pasteur Norbert Vallet. Je terminerai par là. De par sa résistance, vous connaissez son histoire, cet homme rassemble autour de lui des personnes qui sont très diverses, au-delà des affiliations ecclésiales, des étiquettes. Et si vous remarquez, dans la presse, il n'est pas présenté comme pasteur évangélique, il est présenté comme pasteur. Ce qui est génial, parce que ça veut dire que ce qu'il fait, porté par les convictions de sa tradition, de son groupe, est reconnu comme un témoignage du monde protestant en général. Vous voyez que dans le monde médiatique, les frontières, nous ne les maîtrisons pas. J'ai d'ailleurs vu, c'est une question que je vous pose, c'est intéressant, est-ce qu'on passe du fluide à du solide, qu'il était candidat au Conseil national? Intéressant. Est-ce que c'est la suite logique de son engagement? Peut-être. En tout cas, son témoignage élargit l'attente de l'Église, en montrant que l'Église est plus large encore que ce que nous pouvions imaginer. Ses frontières dépassent celles de nos communautés, elles dépassent aussi celles de nos pays et de nos lois, puisque Norbert Vallet a pris le risque de ne pas suivre une loi au nom de ses convictions personnelles. À nous donc, à vous donc, chers amis, de chercher ensemble, et là où nous sommes, dans l'Évangile, ce qui est vraiment solide, ce qui résiste à la marchandisation, mais aussi ce qui se transmet, ce qui s'adapte, ce qui se donne sans contrepartie, ce qui est plus fluide. Que Dieu vous bénisse et vous conduise sur ce chemin délicat entre le fluide et le solide. Amen.
Avoir un petit temps de prière ouverte à la communauté. Comment répondre, comment réagir? On a beaucoup entendu. On sait ceux qui sont les défis. Et remettons tout cela entre les mains de notre Seigneur. Prions ensemble. Qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi au pied de la croix, se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Merci Seigneur pour la joie de t'appartenir, pour ce que tu as fait dans notre vie. Aide-nous Seigneur à puiser notre force, notre intelligence en toi. toi qui es fidèle, au nom de Jésus. Amen. Nous allons, avant la scène, chanter ce chant « Une seule église ». Le refrain est assez facile, le couplet est un tout petit peu plus difficile. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez peut-être l'écouter et puis nous rejoindre dans le refrain. Si vous le connaissez, chantez avec nous, s'il vous plaît, dès le début. Je vous invite à vous lever.
Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous avons qu'un seul Père, nous avons un Sauveur qui pour nous est offert. Quand nous étions indignes et pécheurs, nous avons qu'un seul Roi, nous avons qu'une seule. Ce Christ, ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit, et nous aurons qu'un seul rêve. Que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que le feu du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un seul. C'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs, nous avons qu'un seul roi, nous avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes séduits à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule.
Une seule Église, une Église universelle, une Église solide, pertinente auprès de ses contemporains. L'Église évangélique de Meyrin est une des étoiles de la galaxie des Églises chrétiennes, avec une particularité, avec des qualités qui font qu'elle est unique dans ce paysage, Elle a une confession de foi. Qui c'est qui la connaît par cœur? Okay. Qui c'est qui l'a lu? Ouais, quelques-uns. Alors, je vous propose de la voir, si on arrive. Elle est sur le site web. Donc, vous allez sur « À propos, confession de foi » et vous pouvez la lire et vous retrouver dans les spécificités qui font notre Église ici aujourd'hui. Une Église qui est aussi présente auprès des contemporains, qui est liée à la cité de Marin, qui est présente dans, à travers de ses activités, là où Dieu nous a placés. Jésus, dans son parcours sur la vie, sur la terre, nous a parlé d'éléments solides aussi, auxquels nous faisons référence tous les dimanches, qui sont le pain et le vin. Et je vous propose ce matin d'aller pendant ce moment en direction d'un bilan intérieur, d'un bilan par rapport à quelle est l'évolution, quelle est la fluidité que l'Évangile a créée dans ma vie, le Saint-Esprit, a fait changer en moi dans ces derniers mois, pour que je puisse lui ressembler toujours plus, être toujours plus solide, être toujours plus sel de cette terre auprès de mes contemporains autour de nous. Alors, nous nous rappelons que dans ce moment, qu'il a pris le pain, et nous allons le manger en nous souvenant, nous allons le manger dans le physique, dans le réel, pour nous rappeler de son corps percé et brisé sur la croix il y a 2000 ans. Et nous allons, dans ce moment, prendre le vin qu'il a pris, et nous allons le boire en souvenir de son sang versé sur la croix. C'était un choix de sa part, un choix de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, de mettre en œuvre un salut gratuit pour l'humanité. Et ça, c'est la plus grande différence à tous les autres systèmes. C'est ce salut gratuit qui permet d'avoir l'accès à la vie éternelle, d'avoir cette certitude de passer l'éternité auprès de lui. Alors que dans ce moment, je me questionne sur mes valeurs, sur mon association et l'imprégnation des valeurs de Jésus-Christ en moi, que je me repositionne pour être, peut-être pour un changement, à appeler à un changement ou à célébrer le changement qu'il a fait dans ma vie, et vraiment de vivre la joie d'avoir la certitude d'être écrit dans le livre de vie. Nous allons manger le pain en souvenir de son corps brisé sur la croix. Nous allons boire le vin en souvenir de son sang versé sur la croix. Au centre des plateaux, les gobelets de couleur sont sans alcool, le vin est autour. Et pour ceux qui désirent la coupe, merci de faire signe. va passer à l'offrande, donc ce que vous avez choisi de mettre de côté ce matin dans la semaine, vous pouvez le mettre. Si vous n'avez rien prévu, ne mettez rien, sentez-vous libre complètement. Nous prions, Père Céleste, que ces éléments solides, de l'argent, des choses réelles, puissent être utiles à avancer ton règne fluide et solide dans le cœur des personnes, de l'Église et de nos contemporains autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comment est-ce que cet argent est employé? Nous les allons savoir avec les annonces.
On peut parler d'argent physique et d'argent liquide aussi. Alors, pour les annonces, pour mardi, donc tout prochainement, le fil d'argent à 14h30 avec une invitation pour un voyage dans l'espace. André m'a encore donné des flyers que je mettrai sur le desk à l'entrée. Ensuite, mercredi, Dieu mode d'emploi, qui fait référence aussi à l'exposition qui est déjà Appel Expo, qui est déjà. Donc à l'école du Livron, mercredi 16 octobre à 20h15, avec une introduction de Philippe Gonzalez que vous connaissez. Il était venu parler quand il y a eu la votation sur la loi pour la laïcité. Ensuite, samedi 2 novembre, One à Fribourg. Pour encore vous inscrire. La chorale, nouvelle chorale à Mérin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller vers David Porter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui était au piano ce matin. Action paquet de Noël. Donc là, vous pouvez aussi apporter vos dons jusqu'à fin octobre, puisque nous allons commencer à faire les paquets à partir du 3 novembre. En tout cas, les enfants. Le 3 novembre aura un moment pour faire les paquets. Tu dis deux mots.
Autour de l'inauguration de la chapelle, dimanche 3 novembre prochain, nous aurons donc un double événement avec Sébastien Demeret, Jimmy Lahaye et Joanie, une choriste qui les accompagne, formant le groupe Héritage. Le groupe Héritage, c'est un groupe canadien qui vient de l'église Nouvelle Vie, et qui revisite d'anciens cantiques, dont quelques-uns que nous avons chantés ce matin. J'aimerais vous encourager à réserver ces dates. Nous avons peu de places disponibles. 80 au maximum à la chapelle, 200 ici. Ce que nous avons donc décidé de faire, vous avez reçu l'actu Mérin en ce sens, c'est d'avoir en priorité des achats de billets ici même, ce dimanche et dimanche prochain. Nous allons essayer d'organiser une troisième date. Et s'il reste un reliquat, ce qui m'étonnerait, nous le mettrons à disposition. Il y a de nombreuses autres églises qui nous demandent des places. Nous avons une précommande qui dépasse le nombre des places disponibles de la part d'autres églises. Donc je vous encourage. Cet événement, il est d'abord créé pour nous. Il se fera donc sur des places assises. Ce ne sont pas des places debout. Il y a du confort et vraiment de la qualité. Prévente ce dimanche, dimanche prochain, auprès de toi, Francine, c'est juste ? Aujourd'hui, auprès de Francine, tu veux te lever ? Et Christiane, merci. Donc tout à l'heure, au prix unique de 20 francs à la chapelle et de 15 francs ici pour les étudiants AVS et de 20 francs si vous souhaitez payer le prix de soutien. Et je vous encourage vraiment à réserver au moins une de ces deux dates. Franchement, c'est splendide, c'est magnifique et ça vaut le coup d'assister à l'un de ces deux concerts.
Merci. Kermesse œcuménique, 9 et 10 novembre, avec une petite demande, c'est la slide suivante, recherche de renfort. Et là, vous pouvez vous adresser vers Claude Parnigoni ou David Junkan, et puis à Francine. Viens devant.
Voilà, aujourd'hui, pour ceux qui voudraient déjà s'inscrire pour tenir le stand de librairie ou éventuellement qui a une idée pour un bricolage pour les enfants, ils sont les bienvenus. Venez vers moi pour vous inscrire. J'ai déjà un petit planning avec des noms à inscrire dessus. Il est vide pour l'instant.
Merci. Je crois qu'on est à la fin des annonces. Thomas, tu veux nous dire deux mots ?
Voilà. Bon, il y a des moments qu'on n'a pas envie de vivre. Et cette semaine, Véro a dit au revoir à sa maman. Alors, mercredi 16 octobre à 14h, il y aura un culte d'adieu. C'est aussi un culte pour célébrer la vie. Et moi, c'est ce que j'aimerais vous demander, c'est de prier pour les vivants. Prier pour son mari, Jean-Charles. Priez pour ses filles, Laurence, Aude et Véronique, ma femme. Et priez pour ses petits-enfants, Oscar et Zachary. Et merci de rester vous-même des lampions de joie et de paix. Amen. Je voulais juste que Philippe soit là pour me soutenir. Voilà, c'est tout.
On va juste prier aussi, si tu veux bien.
Allez.
C'est toi, Seigneur, qui nous demande de nous réjouir avec ceux qui sont dans la joie et de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous partageons la peine, la tristesse de la famille Moret et nous te prions ensemble et dans le nom de Jésus de passer, s'il te plaît, les visiter et consoler, leur renouveler les forces dont ils ont besoin. On pense à Jean-Charles, on pense aux trois filles, aux petits-enfants, aux beaux-fils. Nous pensons à celles et ceux pour qui cette absence est déjà tellement pesante. Et en même temps, nous chérissons dans nos cœurs la perspective de la résurrection, assurée en Jésus-Christ. Que le Christ vienne visiter nos amis. Dans le nom de Jésus. Amen.
Je vous propose de vous lever pour la bénédiction. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez en paix.